Initiation à la théologie par le père Philippe, 16 octobre 1991, 4e cours.
Deux mots. Pourriez-vous nous dire ce qui nous sépare des orthodoxes, le filioque? Dans le mystère de la très sainte Trinité, c'est évident que si je regarde le mystère, je ne l'ai pas dit hier, hein, c'est pour ça que j'ai bien ajouté, qu'il y aurait à regarder dans la théologie de l'Église les grands traités, comment a commencé le traité sur la très sainte Trinité. C'est très important. Et voir comment la séparation entre l'Occident et l'Orient, entre l'Église de Rome et l'Église de Constantinople. Je crois, point de départ, c'est une question de messianisme temporel. Vous savez, dans la théologie de l'Église, il faudrait montrer cette tentation permanente du messianisme temporel. Ce qui était l'occasion pour le peuple d'Israël de rejeter le Christ. Alors ça, c'est la théologie biblique. Un grand thème, très très important, la royauté. Et dans l'Église, la manière dont revit constamment ce point de vue du messianisme temporel, ce que nous reverrons avec la grâce. Et alors, on comprend comment il y a eu rivalité entre Rome et Constantinople. C'est cette rivalité qui a préparé le terrain. Puis après, on a voulu mettre qu'il y ait de plus en plus, on dit ça. Et je crois que c'est vrai, il ne faut pas trop le dire, nos frères orthodoxes, c'est évident. Mais de plus en plus, on voit que la question théologique est venue après. C'est pas elle qui a fait la séparation. Mais c'était une rivalité. Et comme toujours, dans les rivalités, il y avait des torts des deux côtés. Mais il était toujours l'autorité et le pouvoir. Si Rome a autorité, Rome devrait exercer cette autorité en pauvre, comme Jésus. Assis sur le petit Dunanès. Il y a eu une rivalité, et l'autorité a été un pouvoir, et au point du pouvoir, il y a eu rivalité. Une rivalité terrible. Et après, on justifie, vous savez, comme quand on se taquine entre frères sur une bêtise, sur une pomme plus rose qu'une autre. Alors on se bataille là-dessus, et puis après, on justifie, mais c'est parce que tu dis ça, toi. Alors on monte jusqu'à la très sainte Trinité et au filioque. Parce que la question du filioque, c'est sûr, mais il peut y avoir deux théologies, vous voyez, sur le point de vue de la très sainte Trinité. Une spéculative, Thomas d'Aquin, autre selon l'Église, c'est point de vue du gouvernement. Commandé par l'Apocalypse. Je suis persuadé que ce sont ces deux manières de regarder le mystère de la très sainte Trinité qui permettraient, sans aucun, voyez, sans entorse à la vérité, de montrer qu'en effet, il y a deux manières de faire une théologie de la très sainte Trinité. Une, l'évangile de Jean, Augustin, Thomas d'Aquin. L'autre, l'Apocalypse. On voit Dieu et la très sainte Trinité qui gouvernent l'Église. Et c'est à travers la théologie de l'économie divine, et ça c'est la théologie de l'Église, qu'on a une autre vision. les deux ne s'opposent pas. Mais sur les durcis, elles s'opposent. Sur les matérialistes, elles s'opposent. C'est pour ça que je crois que c'est très important pour nous. Et c'est curieux qu'on n'y pense pas. C'est très curieux. On ne pense pas assez que la plupart du temps, il s'est construit deux théologies. L'Orient et l'Occident, c'est deux théologies. Comme il y a deux liturgies. Et que ces deux théologies ne s'opposent pas, c'est deux points de vue différents. Et que je suis persuadé, si nous faisions l'effort, nous, d'une théologie mystique et d'une théologie de l'Église, il y aurait beaucoup de choses qui tomberaient. Cette théologie de l'Église ne s'oppose pas à la théologie scientifique. Et dans l'économie divine, l'Esprit Saint a formé le corps du Christ en Marie. Donc, le Christ est en dépendance de l'Esprit Saint, c'est sûr, dans son humanité sainte, mais pas en tant que Verbe. Donc c'est toujours la vie et l'être. Et sans doute, voyez, si on regardait le mystère de la très sainte Trinité du point de vue uniquement vie, alors que saint Thomas, il y a la rigueur métaphysique de l'être, on serait très proche de la vision de la très sainte Trinité vue dans l'économie divine. Et ça explique, voyez, pourquoi les orthodoxes sont si violemment opposés à la théologie de la très sainte Trinité de saint Augustin. Parce que saint Augustin reste à un niveau de vie en bon néoplatonicien. Il n'atteint pas l'être. C'est tout le passage de saint Augustin à Thomas d'Aquin. Alors on comprend que ces deux visions de la vie, on est beaucoup plus opposés. Ils sont moins opposés à saint Thomas que saint Augustin. Ils le sont en tant que saint Thomas suit saint Augustin. Pour la question de la figure, quoi. Je ne peux pas vous dire plus. Mais je crois qu'il faudrait creuser ça. Alors, est-il juste de parler pour la création de processions ad extra? Dieu ne s'extériorise pas. En théologie naturelle, on dira que Dieu, en créant, fait exister une réalité autre que lui. Cette altérité de la créature n'est pas une extériorité. Est-ce que quand on parle de processions ad extra, on regarde la création au niveau de la vie, comme pour les processions des personnes? On regarde la vie en Dieu faisant une comparaison entre l'acte créateur de Dieu et l'acte de l'artiste. Dans son prologue sur la création, saint Thomas parle de processio ad deo. Et dans la question 44, il analyse au niveau de l'essai. Si cette analyse est scientifique, quel est le regard de saint Thomas dans le prologue? Dans le prologue, je vous ai dit, ordinairement, saint Thomas, quand il commente l'écriture, est beaucoup plus proche d'une théologie mystique. Donc, le retour de la créature vers Dieu. Donc, processio ad deo, ad deum. Et imago, ressemblance. Ce qu'ont fait les pères de l'Église. Imago, c'est ad deo, et ressemblance ad deum. Le double mouvement. Ce qui est juste, hein, c'est pas erroné. Alors, je suis d'accord avec vous, processus ad extra. Il faut quand même comprendre que la créature est autre que Dieu. Donc, cette procession aboutit à une réalité autre que Dieu. Et donc, quand on dit ça, il y a une analogie avec l'art, qui doit être corrigé, je suis tout à fait d'accord, en montrant que la créature n'est pas extérieure à Dieu. Mais elle est autre que Dieu. Vous voyez? Sorte qu'il ne faudrait pas trop se battre là-dessus, ce processus ad extra. Il suffit de comprendre. Mais processus se prend analogiquement. pour la très sainte Trinité comme pour la création, émanatio, processio. Tous ces mots-là se prennent analogiquement. Et donc ad extra pour opposer ad intra, tout simplement. Ad intra, c'est à l'intérieur du mystère de Dieu, le fruit est Dieu. Tandis qu'ad extra, le fruit n'est pas Dieu. L'incarnation du Verbe, est-ce un don de nécessité absolue ou un don de surabondance? De surabondance. Tu étais libre, par rapport au mystère de l'incarnation, souverainement libre, et c'est pour ça qu'on ne peut donner que des raisons de convenance. Tandis qu'entre la mort de Jésus et sa résurrection, c'est un lien de nécessité. C'est pour ça que c'est impliqué dans la mort du Christ, si on croit à la divinité de Jésus. Et que Jésus n'apparaît qu'à ses disciples pour eux, et qu'il n'apparaît pas à tout le monde. Ce que j'ai dit, la révélation se termine au coup de lance. Les apparitions, c'est pour, c'est d'ordre apologétique, on dirait, confirmer la foi. Le mystère de la résurrection, il est donné, je suis la résurrection. Jésus est la résurrection. Tandis que les apparitions, c'est charismatique. C'est pas le mystère, c'est charismatique. Donc c'est pour les apôtres. C'est l'objection, vous savez, qu'on fait couramment aux gens. Mais Jésus n'apparaît pas à Pilate. Jésus n'apparaît pas au grand prêtre. Jésus n'apparaît pas sur l'agora. Jésus n'apparaît pas au temple. Jésus n'apparaît qu'aux disciples. Donc, subjectif. Pas du tout. Le mystère de la résurrection reste un mystère. Et il est impliqué dans l'incarnation. Je suis la résurrection. Jésus n'a pas dit sans ma grâce, vous ne pourriez rien faire. Jésus a dit sans moi. Oui, c'est juste. Vous ne pourriez rien faire. Pourquoi? La grâce ne suffit-elle pas? Mais il a dit aussi, ma grâce te suffit. Ah, il l'a dit aussi ça. À Saint Paul. Pourquoi la grâce ne suffit-elle pas pour que je me sauve? La grâce suffit pour que je me sauve. Parce que la grâce est la présence du Christ en moi. Donc c'est sans moi. Ne séparons pas la grâce de celui qui donne la grâce. Parce que c'est inséparable. À la différence de la création. La création fait une présence d'immensité inséparable de l'être participé. Mais la créature peut volontairement se séparer de son créateur. Tandis que la grâce est un don d'amour, de surabondance, surnaturelle, inséparable de sa source. Il y a une nouvelle présence, la présence du Christ, par la grâce. Et celui qui reçoit la grâce est lié librement à celui qui lui donne la grâce. C'est ça, ma grâce seule te suffit, sans moi vous ne pouvez rien faire, c'est deux paroles qui se complètent. Pourquoi le Père a-t-il voulu que je fasse appel à Jésus-Christ, à un secours indispensable? Le bon plaisir du Père, parce qu'il a voulu l'incarnation et la rédemption. Il a voulu que Jésus soit notre Père de la grâce, et que tout passe par Jésus. C'est le bon plaisir du Père pour glorifier son Fils. Et qui veut glorifier. Père, glorifie-moi pour que je puisse te glorifier. Et Jésus nous glorifie parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. Et Jésus, je veux dire, Jésus glorifie le Père parce que c'est par lui que nous sommes sauvés. Oui. Donc ça, c'est le bon plaisir du Père qui veut que nous passions par son Fils. C'est la convenance de l'incarnation. Il aurait pu nous sauver autrement. Il aurait pu très bien nous sauver sans l'incarnation et sans la rédemption. Il a voulu nous sauver par Jésus. Et Jésus veut nous sauver par la grâce. Vous voyez, les causalités successives. Le Père, le Fils, bien-aimé. Le Fils procède du Père et l'incarnation, c'est le fruit du bon plaisir du Père et de la très sainte Trinité dans le Fils bien-aimé, le Christ. Et le Christ est instrument du mystère de la grâce pour nous, qui est la continuité du mystère de la très sainte Trinité en nous. C'est cette loi de l'instrumentalité qui est capitale si on veut comprendre quelque chose au mystère de l'économie divine qui commande toute l'économie divine. Ce que saint Thomas dit d'une manière très très belle, avec la nouvelle alliance, Dieu a surabondé dans l'ordre des instruments pour communiquer davantage sa miséricorde. C'est très beau ça. Ça, c'est toute la grande théologie de l'économie divine de la grâce. Et j'ai vu, il n'y a pas très, j'avais dans un journal, c'était quand j'étais à Fribourg, dans un journal protestant de Genève ou de Lausanne, j'ai voulu. Alors, on montrait les spiritualités différentes du protestantisme et du catholicisme. Par les peintures, pour montrer que d'un côté, la médiation surabonde, donc l'instrumentalité, et de l'autre côté, contact direct avec le Père. Alors, on mettait Rembrandt, évidemment, peintre protestant, les disciples d'Emmaüs. On est à la même table que Dieu. Il n'y a pas de médiation, on est à la même table. Goya, tous les intermédiaires. On aurait pu dire, oui, mais voyez, vous tombez dans l'horizontal et nous sommes dans le vertical. Parce que c'était exactement ça. Il y avait le côté vertical à la... C'est très beau du reste. Et de l'autre côté, l'horizontal. Moi, j'aurais répondu comme ça. Le symbolisme, on ne peut jamais argumenter à partir d'un symbolisme en théologie scientifique. On illustre, on manifeste. C'est pour ça que ce symbolisme horizontal et vertical peut s'entendre de deux manières différentes. C'est vrai que les disciples d'Emmaüs, quand on voit Rembrandt les disciples d'Emmaüs, c'est merveilleux. Ils sont bien installés. Goya, vertical. Et il en ajoute. Alors nous allons maintenant entrer, seconde journée, la grâce, le péché, les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit, la béatitude. C'est extraordinaire. Hein. Donc nous avions vu hier l'ordre. Le Christ, Dieu, la Trinité, la création. Et là, au-delà de la création, la rédemption. Comprenez bien. Parce que le Christ enveloppe le mystère de Dieu pour nous. Le mystère mystère de la très sainte Trinité. Le mystère de la très sainte Trinité. La création et la rédemption. Le fruit propre de la rédemption, c'est le salut des hommes. Donc c'est la théologie du salut. La théologie du salut, vous la voyez premièrement en théologie biblique. Tout de suite. C'est comme cela que le mystère du Christ est annoncé. C'est le Sauveur. C'est le Sauveur de l'homme. Et tous les prophètes. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce salut est donné selon un mode symbolique. Un repas, les viandes grasses, le vin en surabondance, la terre promise. Alors ce symbolisme peut se comprendre d'une manière matérielle ou d'une manière intérieure, comme toujours tout symbolisme. Le symbolisme comme tel est comme ça. Et vous retrouvez ça jusque dans l'Apocalypse. Donc on voit le salut qui conduit à la béatitude. Ce symbolisme du salut, nous le retrouvons demain avec les sacrements. Dans l'Ancien Testament, il y a déjà les sacrements. Dans l'Ancien Testament, le salut vient par la parole. Il est justifié par la parole. Abraham. C'est important. Il est justifié aussi par des gestes. Les sacrements. La circoncision. On verra ça demain. Mais on peut dire que toute la théologie biblique, c'est la théologie du salut. Annoncée de multiples manières. Et c'est ça qui serait très intéressant à voir comme piste. De voir les diverses manières dont le salut est présent. Pour l'homme, d'un grand, grand chantier théologie biblique. Vous voyez, dans la théologie de l'Église, on retrouve le point de vue du salut et la promesse de la béatitude. Ça, c'est très net. En théologie mystique, tout de suite, la béatitude, le mystère de l'amour de Dieu qui nous est communiqué. Ce salut se traduira de cette manière les épousailles avec l'agneau et par là avoir l'héritage du Fils. Voir Dieu tel qu'il est. Ces deux grandes visions terminent, on peut dire, toute la révélation. Et qui sont immédiatement prises en théologie mystique. Par la croix du Christ, on est introduit dans la béatitude. Et la béatitude est représentée par des noces avec l'agneau et représentée par l'héritage. On est co-héritier avec Jésus de la vie du Père. Donc c'est tout le mystère de la paternité. On est introduit dans le mystère du Père. c'est la théologie scientifique qui va préciser le mystère de la grâce. Si vous regardez attentivement le traité de la grâce de saint Thomas, que nous ferons cette année-ci, c'est que saint Thomas, tout de suite au point de départ, montre que le mot grâce peut s'entendre de diverses manières. Et la manière la plus ample de regarder la grâce, c'est de regarder justement comment Dieu nous accueille, théologie du salut. Dieu nous accueille. Et immédiatement, puisque la théologie scientifique veut être scientifique, on va chercher les causes de notre salut. Et on verra que Dieu veut nous sauver gratuitement, mais en nous demandant notre coopération. Dieu ne veut pas nous sauver sans nous. Et tout le mystère de la grâce, qui est quelque chose dans notre âme, à liquide, dira saint Thomas. Et saint Thomas précisera ensuite. C'est parce que il y a cette grande lumière qui est révélée, qui est de fait très très nette, surtout dans le Nouveau Testament. La parabole des talents. Dieu ne veut pas nous sauver sans nous, sans notre coopération. Et plus il nous donne gratuitement son amour, plus il veut que nous répondions gratuitement à son amour. Au-delà de la loi, par la gratuité de l'amour. Et c'est là qu'on situera la vie religieuse. C'est la réponse gratuite à la gratuité. Parce qu'on a compris que l'amour de Dieu était tellement surabondant qu'il voulait que nous répondions gratuitement. Alors là, vous voyez, intervient tout de suite une vision théologique impliquant une vision philosophique. Parce qu'on va voir très très vite dans la tradition de l'Église et donc en théologie deux visions sur la grâce. Il y en a même trois. Pour montrer la difficulté qu'on a de comprendre la gratuité et la coopération. Dans une vision dialectique, gratuité s'oppose à coopération. Dans une vision qui n'est pas dialectique et qui est une philosophie théologie saine, impliquant une philosophie réaliste, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Je vous rappelle tout simplement pour que vous compreniez, parce que c'est le grand problème de la théologie de la grâce. C'est de montrer les rapports entre la grâce et la nature. Si la grâce est reçue, est-elle reçue dans l'âme pour que ce soit comme une greffe, ou est-elle reçue dans l'âme d'une manière telle que nous soyons uniquement le réceptacle non vivant? Il y a toute une philosophie qui est extrêmement net, mais qui est bien avant, qui existe un peu dans le néoplatonisme, dans Malebranche. Pour exalter le Créateur, on dit que Dieu ne cause pas des principes et des causes. Dieu est la seule cause de tout. tout le reste est uniquement mu par lui. Donc, il n'y a plus communication de la vie. Vous voyez, c'est très très important de comprendre ça. Si je ne fais pas la distinction entre être et vie, je ne peux pas comprendre le problème de la création et la communication de la vie. Si je ramène la vie à l'être, si je ramène la vie à l'être, l'être, laissé, est totalement reçu. Sans lui, rien ne fut. Donc, la vie devient une pure passivité. Si je ramène l'essai à la vie, il n'y a plus création, il y aura évolution. Et c'est pour ça que c'est important par rapport à la création. Et on retrouve le même problème transposé au niveau du salut, c'est-à-dire au niveau de la recréation. De la vie du salut. C'est la très sainte Trinité dans la création. C'est Dieu un. Qui est trine. Ici, c'est la Trinité qui est une. L'inverse. Qui est source de grâce. Alors, si je confonds être et vie, je dirais que la grâce est reçue être un nouvel être en moi. Il n'y a aucune coopération du sujet. Vous avez Luther. L'homme est corrompu à cause des conséquences du péché. Et la grâce redonne l'être. Philosophie hegelienne. La grâce permet à l'intelligence d'être intelligence capable de vérité. Alors que sans la grâce, elle était incapable. Donc on considère la grâce sous le point de vue d'un nouvel être. Un être divin. Et donc une nouvelle substance. On ne le dira pas, mais il sera une nouvelle substance. Si au contraire, on distingue être et vie, on dira que la grâce, du point de vue de l'être, est un nouvel habitus. Donc une qualité reçue et non pas une substance. Et que la grâce, du côté de la vie, est un nouveau principe. Donc une nouvelle nature. Ça, je crois ça capital à bien comprendre. Et tout ça est commandé par le point de vue du salut. Les deux manières de le concevoir. Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis. L'ami connaît les secrets du maître, de l'ami. Le serviteur ne les connaît pas. Alors, on comprend très bien cela, que le salut que Jésus nous donne réclame notre coopération en ami. Et donc, la grâce maintient notre liberté, la grâce vient surélever notre capacité de vie, mais elle ne nous donne pas un nouvel être. Une nouvelle personne. au sens absolu, au sens métaphysique, une nouvelle subsistance, si vous voulez. Parce qu'elle doit avoir une nouvelle personnalité. Il y aura la personnalité chrétienne. C'est dans ce sens-là, vous voyez, qu'il n'y a pas de métaphysique chrétienne. Parce qu'il n'y a pas un être nouveau. La grâce est une qualité qui vient ennoblir. C'est très très important. Ça, on touche là, vous voyez, deux conceptions du salut. Comme si c'était Dieu qui faisait tout, ou si Dieu nous traite en amis. En amis, on fait œuvre commune. Nous faisons l'œuvre du salut. L'Église continue la mission du Christ. Et l'Église, c'est nous. On continue la mission du Christ. Le Christ ne peut pas nous sauver sans nous. Et donc, il y a une conception de la grâce toute différente. Si on conçoit le salut dans cette coopération amicale, ou si on conçoit le salut, au contraire, comme un don gratuit, absolument gratuit, où nous sommes sauvés malgré nous, à l'extrême, fatalisme. On est inscrit sur le livre de vie, peu importe ce que je fais, que n'est-ce pas importance. Et là, on verra jusqu'au bout en supprimant le mérite. Mérite, non, mais non, ça va contre la gratuité. Mais le mérite ne va pas du tout contre la gratuité. Puisque c'est par la gratuité que je mérite. C'est pour montrer au contraire que la gratuité est capable de faire de moi un ami. Vous voyez, ça repose sur cette conception univoque qu'on voit très très nettement chez un Malebranche, mais qui est présente dans le néoplatonisme, où on dit, pour exalter le Dieu créateur, que Dieu ne crée pas des causes secondes. Et au plan surnaturel, Dieu veut qu'on soit tous comme des enfants qui reçoivent, sans aucune initiative, et non pas comme des amis, et non pas comme des épouses. L'épouse n'est pas un enfant, et l'enfant n'est pas une épouse. C'est capital de comprendre ça. Pour comprendre la théologie de la grâce. Et comprendre que la théologie de la grâce, c'est peut-être l'œuvre la plus utile et indispensable du théologien, de théologie scientifique. Je crois. Parce que c'est là où les erreurs surabondent. Quand je regarde l'histoire de l'Église, toutes les erreurs se partent de la grâce. Et je suis persuadé que les erreurs de Mgr Lefebvre remontent sur une conception de la grâce. Parce que c'est la question de la liberté. Et attaquer la liberté religieuse. Comme c'est aller contre la gratuité. C'est extrêmement curieux, ça. Quand on regarde le traité de la grâce chez un théologien de théologie scientifique, on voit tout de suite la qualité de sa théologie. Oui, quand il s'agit de la très sainte Trinité, on la contemple. Quand il s'agit de Dieu, on le contemple. Quand il s'agit de la création, on la contemple. Quand il s'agit du Christ Sauveur, quand il s'agit de la grâce, on voit le prolongement du mystère de l'incarnation. Le lien entre la personne humaine et Dieu. L'alliance. Oui, en théologie biblique, ce sera le grand thème de l'alliance. Qui se traduira en théologie scientifique, la grâce. La grâce est source de l'alliance. La théologie biblique, c'est évident que c'est le grand thème de l'alliance. et l'alliance pendant des modalités différentes en théologie publique. Il faudra ponctuer toute l'histoire d'Israël par le mystère de l'alliance. En théologie de l'Église, ce sera la liberté et la grâce. C'est pour ça que c'est intéressant de voir que Vatican II parle de la liberté religieuse. C'est qui nouveau. Regardez, aucun concile ne le dit. C'est vrai. Mais c'est pas parce qu'aucun concile ne le dit que c'est condamnable. Ça exprime l'ultime pointe de la liberté dans le mystère de la grâce et dans le mystère de la gratuité. Je ne peux jamais obliger un adulte d'être baptisé. Jamais. Je ne peux jamais obliger quelqu'un de rentrer dans l'Église. Jamais. La liberté doit aller jusque-là. Et voyez, avec Vatican II, l'Église va ouvrir beaucoup de portes. Ce qui réclame du chrétien d'être plus adulte dans sa prudence. Et de mieux comprendre sa liberté de chrétien. Et donc, objectivement, c'est un progrès. Subjectivement, ça exige d'être beaucoup plus attentif. L'Église demande aux chrétiens, avec Vatican II, de prendre des armes légères. Ça, c'est sûr. On le verra avec le mystère de l'Église. Donc, la grâce. Saint Thomas, en théologien scientifique, va se servir de deux analogies. Et c'est très important de comprendre ces deux analogies. Les analogies dont se sert le théologien sont toujours révélé. Toujours. Pas selon les termes et les expressions du théologien, mais selon la réalité du mystère. Les deux analogies que prend saint Thomas, c'est le point de vue de l'habitus entitatif, la qualité et la nature. C'est-à-dire du côté de l'être et du côté de la vie. Et là, les deux analogies sont intimement liées pour pouvoir exprimer la transcendance de la grâce et l'immanence de la grâce. La grâce progresse dans un sens toujours plus grand de la contemplation de la très sainte Trinité. Immédiate et une immanence toujours plus grande dans une intériorité toujours plus forte. La grâce va impliquer une croissance et cette croissance dépend de nous. La grâce est donnée gratuitement et la croissance dépend de nous et du bon plaisir de Dieu sur nous. Et nous pouvons arrêter la croissance de la grâce. C'est accepter la tiédeur. C'est accepter le vague dans l'âme. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez ? On ne veut pas avancer. On peut freiner. Empêcher la croissance de la grâce. La tiédeur. Ce qui est sûr, c'est que la grâce va s'épanouir en nous par les vertus théologales.